Vous écoutez RTL. RTL autour du monde.
Présenté par Jean-Michel Zeka et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne d'RTL. Nous sommes en direct jusqu'à 16h, comme chaque jour de l'été, juste avant de retrouver Laurent Ruquier et les grosses têtes tout à l'heure. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end, vous êtes peut-être arrivé sur votre lieu de vacances. J'espère que tout se passe bien et si ce n'est pas le cas, c'est dans quelques jours, je vous le souhaite. Courage, on vous prend par la main, on vous fait voyager. Alors vous le savez, le lundi dans cette émission, le lundi c'est tradi, c'est tradition. Le lundi c'est tradi, mais c'est aussi un peu...
Sophie.
Non, oui, c'est vrai, mais c'est aussi un peu ravioli. Puisque aujourd'hui. Non, mais vous allez voir.
Oui, il y a un lien.
Ravioli pour le coup, mais ravioli polonais.
Mais oui, absolument. On va aller manger des raviolis en Pologne. On va pas faire que ça en Pologne, mais on va notamment en manger. Puis alors après, comme on sera bien nourri, on ira faire une petite chasse aux fantômes de nuit.
On va partir à tombeau ouvert dans les rues de Cracovie.
C'est donc le lundi, c'est Pirochki.
Oui, voilà.
C'est exactement ça, le fameux ravioli. Polonais, qui est un peu russe aussi quand même, Pierochki. Le lundi, c'est Aude Claire de Parcevaux qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Aude Claire, bienvenue sur RTL. Vous êtes à la rédaction de notre partenaire, évidemment, le partenaire du lundi et du mercredi, le magazine de la curiosité, c'est Ça m'intéresse. Et aujourd'hui avec vous, une église. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Alors, elle a une décoration très, très particulière.
On peut dire qu'elle est un peu psychédélique.
C'est exactement ça.
Pas que ça. Il y aura des pierres au programme aussi.
Et des pierres qui ne ressemblent pas du tout à des pierres d'église non plus.
Non, on est loin du... Ça, c'est vrai, on est loin du compte. Et même une pagode.
Et une pagode. Une pagode en plein centre de la France.
Voilà, on va voyager, mais tout ça, et ça peut paraître étonnant, est vraiment bel et bien au cœur de la France.
Tout ça en restant en France.
On y vient dans quelques minutes. Jean-Sébastien Petit-Demange.
Oui, Jean-Michel.
Depuis sa très grosse prestation de vendredi dernier, et de retour dans cette émission...
Vous ne vous en remettrez jamais, Jean-Michel.
Jean-Sébastien.
Votre orgueil a été frappé.
Non, c'est Jean-Sébastien. le fil rouge du jour... Ceux qui étaient là vendredi savent pourquoi. Le fil rouge du jour à découvrir aujourd'hui avec à gagner des triplettes de boules de pétanque de la marque Obut et une montre RTL. Que cherchons-nous et qui est notre invité mystère?
Une dent contre une pastel de Nathan.
Vous allez payer. À jamais.
Nous avons un invité, un fil rouge, évidemment, un endroit à découvrir, ou un plat, ou un métier, je ne sais pas encore.
Enfin, si, moi je le sais, mais vous ne le savez pas.
Oui, je rappelle que vous êtes, vous, Jean-Sébastien, et notre invité fil rouge, les seuls à connaître.
Bonjour Robert.
Oui, bonjour Jean-Sébastien.
Que cherche-t-on?
Bonjour Robert, bienvenue sur RTL.
Bonjour Jean-Michel, merci de m'accueillir.
Donc ça recommence, donc. Il est seul dans cette émission, ça y est. En fait, il a donné ses consignes. Robert, dites-nous tout.
Que cherche-t-on?
Écoutez, vous allez essayer de trouver un lieu qui réunit plus de 6000 animaux, qui en général ont des formes et des couleurs tout à fait fascinantes.
D'accord. Un lieu qui réunit plus de 6000 animaux aux couleurs fascinantes.
Oui.
Bien.
Ça donne un indice quand même déjà.
Ce n'est pas le premier indice. Hein.
Non,
je
mais
le rappelle.
Ça en donne un quand même.
Ce n'est pas le premier indice.
C'est juste l'objet de notre recherche.
Le premier indice, ce sera juste après De Palmas.
Et bien, juste après ça.
Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge.
Ah, bah oui.
Le fil vert. Sur le bouton vert, vous appuyez,
voilà,
et paf,
premier indice.
Et paf, premier indice.
C'est paf le chien d'habitude.
Premier indice du jeu fil rouge au 32-10, nous cherchons un lieu.
Un lieu
qui réunit plus de 6000 animaux aux couleurs et aux formes fascinantes. Quel est ce premier indice, Jean-Sébastien?
Premier indice pour nous situer où est ce lieu.
Message personnel. La mienne est plus grosse que la vôtre. La mienne est plus grosse que la vôtre.
Oui, c'est pas la peine de le rappeler, hein, on a compris.
Voilà. C'est...
Voilà.
Voilà.
Nous cherchons un lieu.
Je rappelle que c'est une annonce en gare.
Ça, c'est de l'indice de lundi. Hein.
Ah, je dis respect.
Il y a des triplettes de boules de pétanque de la marque Obut à gagner, je le rappelle, ainsi que de montres RTL. Vos appels au 3210. Dans un instant, Sophie Massieu nous emmène pour faire vivre une expérience franchement unique, empreinte de nostalgie.
Mais
aussi,
oui.
Sophie. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite.
RTL autour du monde.
Sophie, sa coutume.
Au cœur des traditions, en France et partout ailleurs, un peu partout dans le monde, avec Sophie Massieu le lundi.
Mais
Sophie,
oui.
Destination cette fois, l'Europe de l'Est.
Et oui, la Pologne précisément, près de Cracovie. On est parti de Cracovie et on va vivre une expérience nostalgique. Mais alors, vous commencez à me connaître un petit peu maintenant, c'est pas du tout une nostalgie triste, bien au contraire, ça va être un vrai moment de plaisir. Je vous ai promis un voyage pétaradant dans le passé. en quoi ça peut être à votre avis? Si ça pétarade et que c'est en Europe de l'Est.
Entre amants?
Ouais, gagné, exactement.
Ah oui,
je suis donc partie de Cracovie pour me rendre à Nova Huta, qui veut dire ville nouvelle, et c'est une ville qui avait été conçue et financée par Staline. J'étais donc en charmante compagnie, évidemment, c'est pas moi qui conduisais, hein. une fois de plus, je m'étais trouvé des gens sympas pour m'emmener quelque part, et on les appelait les Crazy Guides, et précisément, j'étais avec Timek et Kuba, et donc, on est parti en... En trabant.
Des guides un peu barrés, mais qu'est-ce qu'ils ont de fou?
Bah, déjà, ils sont suffisamment barrés, comme vous dites, pour être venus avec deux voitures. Une pour moi, une pour mon chien. Et en plus, vous savez quoi? On a fait la course. Pire, mon chien a gagné.
Bah, votre chien est un pilote.
Mon chien est un pilote. Mon chien était le meilleur, de toute façon, celui-ci. Bref, vous imaginez deux trabants à fond de train dans les rues de Cracovie. C'est pas hyper stable comme voiture. Si vous bougez juste les fesses comme ça sur le siège... C'est pas le siège qui bouge, c'est la voiture entière. Et quand vous êtes sur ce petit fauteuil, là, vous êtes quasiment assis déjà sur les genoux de votre conducteur. Donc bon, voilà. Et en plus, vous êtes quand même un peu en train de serrer les fesses et de vous dire, faudrait pas qu'il y ait un imprévu, un carambolage. Je suis pas complètement sûre que ça tienne le coup.
Faut parler de l'esthétisme de la Trabant.
Ben,
c'est quand même une voiture à l'aérodynamique assez exceptionnelle.
Ou à l'anti-aérodynamique. On dirait des boîtes. C'est tout carré, c'est en plastique. Alors, voilà, de l'extérieur, on dirait une boîte à sardines, un peu, pourquoi pas, dans laquelle on pourrait tout serrer. Et
c'était fonctionnel.
Ouais, mais dedans, ça fait un bruit de tondeuse, un peu.
Bah, c'est un moteur de tondeuse à gazon, hein, tout de même.
Et bien, ça fait exactement le même bruit. Et puis, encore une fois, il faut aimer la proximité, il ne faut pas être trop grand non plus, parce que ce n'est pas si facile que ça. Mais bref, en tout cas, avec cette voiture, on peut voyager dans le passé avec des guides complètement dingues, et ça, c'est quand même génial.
Ça veut dire qu'on se replonge dans une espèce de Pologne communiste de l'époque?
Exactement, exactement. Et c'est pas que pour les touristes, en fait, parce que la nostalgie, elle est pas que chez les touristes. Les gens qui n'ont pas connu cette époque, les jeunes notamment, ils ont bien envie de la connaître. Et donc, on se déplace et on va voir des tas de choses.
Qu'est-ce qu'on va voir, justement?
Eh bien, d'abord, moi, j'ai vu un char d'assaut. Vous savez, les chars soviétiques, là, et la première chose que j'ai vue, c'est ça. Alors, c'est pas drôle, mais en tout cas, c'est instructif. Il avait participé au printemps de Prague, donc il avait gentiment écrasé la révolte. Non, mais c'était émouvant de pouvoir toucher et approcher cet engin. Mm-hmm. J'ai même fait un truc complètement interdit.
Surtout ça,
c'était à Cracovie. Enfin, c'était à côté, à Nova Huta. J'ai fait un truc parfaitement interdit, j'ai grimpé dessus. Et en fait, ben oui, c'était pas du tout autorisé. Mais je voulais voir un peu de quelle hauteur c'était. Et quand on est là-haut, franchement, on se dit qu'en effet, on comprend pourquoi ça peut faire du mal. Mais enfin, voilà, ça, c'était pas le plus drôle, mais c'était le moment émouvant. Et alors, le moment le plus rigolo, c'est que ces jeunes, ils vous emmènent dans un appartement. On va dire un appartement en l'état.
C'est-à-dire, vous y avez trouvé de quoi particulier, justement?
Ben, déjà l'odeur. Ça va vous paraître idiot, mais je vous assure, ça sentait un peu le vieux. Un peu, je connais pas votre mamie, puis je veux pas dire du mal de votre mamie qui m'a rien fait, mais vous voyez, un peu une vieille odeur de maison de mamie à la campagne qui serait jamais aérée, qui serait un peu humide. Et puis surtout, dans les choses rigolotes, il y avait une espèce de machine pour distiller de l'alcool et faire de la volca qui était planquée dans la salle de bain. Une espèce de grosse pompe en métal, c'était un truc énorme. Il y avait aussi du papier hygiénique, vous aimez bien que ça fait là, et ben il était en collier comme ça parce qu'il y avait des pénuries de tout à l'époque là-bas. Et donc quand enfin on trouvait du papier toilette dans les épiceries, on était tellement fiers qu'on le ramenait avec chez soi en le mettant autour du cou, ça faisait comme des colliers, c'était incroyable.
Vous faites des colliers avec des rouleaux de...
Je fais pas des colliers avec des rouleaux de PQ, j'ai vu des colliers de rouleaux de PQ de l'époque. Bon d'accord, je l'ai
de l'époque.
De l'époque.
De l'époque, monsieur. Et donc un appartement comme ça, c'est en fait comme en visiter plusieurs, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Nova Huta, c'était conçu pour que tout le monde vive pareil, dans le même cadre, etc. Un peu à l'opposé de ce qu'ils appelaient les villes bourgeoises, comme Cracovie, justement. Et bon, ça peut paraître un peu frustre hein, pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, c'était presque luxueux, en fait. Nos critères à nous sont pas... Voilà, mais là, il y avait de l'espace, il y avait un canapé, il y avait un lit, et il y avait ces fameuses machines cachées aussi, une salle de bain. Bref, à l'époque, ça paraissait vraiment comme quelque chose d'important, de bien fait.
Ouais, vous nous parliez de ravioli. Quel est le rapport avec le ravioli, en fait?
Mais écoutez, ça nous avait donné faim, tout ça. C'est pas tout ça, mais boire une petite vodka à 11h, ça ouvre l'appétit. Hein. Et donc, on est allé déguster ces pirogis. Ces petits raviolis, ces gros raviolis d'ailleurs, traditionnels, polonais. Ils avaient un petit côté d'époque aussi.
Non, tiens, ouais, voilà. Je vois. Faites attention, il y a des amis polonais qui nous écoutent.
Mais
là, vous êtes en train
contre les Polonais.
Non, vous êtes en train d'aggraver votre cas.
Mais non, pas du tout. C'est vous qui l'aggravez parce que vous êtes en train de dire que je dis du mal alors que c'est pas le cas. Je veux juste te dire par
c'est
là.
C'est bon, c'est bon.
Ça passe. Disons que ça nourrit son homme. Mais en tout cas, ce qui était rigolo,
c'est meilleur. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'adore. Non, je dis c'est bon alors que je sais très bien que c'est délicieux.
Moi, je suis pas fan.
Le pirojki, c'est délicieux.
Bon, alors moi, je suis pas fan.
Alors effectivement, c'est gourmand.
C'est ça.
C'est pour ne pas dire...
Jean-Sébastien, juste une question. Est-ce que c'est bon ou moins bon qu'un pastel de nata? C'est la question que je me pose.
Moi, je préfère les pastels de nata.
Ça dépend à quelle heure. C'est vrai qu'avec de la vodka, le pierogi passe mieux, parce qu'il y a quand même de la patate, il y a du fromage blanc.
Oui, ça tient son homme.
C'est un peu lourd.
Il y en a même, on peut le faire, il y a des versions sucrées avec des myrtilles, des fraises. Mais c'est génial, parce que ça coûte rien.
Et surtout, ça se mange dans des endroits parfois surprenants.
Mais exactement, en fait, ça coûte effectivement rien parce que c'était comme dans une espèce de cantine d'époque, elle aussi, pour le coup, sans rire cette fois-ci. C'était une sorte de bar ouvrier, c'était pas cher du tout et c'était vraiment comme à l'époque, servi sous forme de coopérative par des gens très très chouettes en revanche.
Surtout que ça coûte rien du tout, quoi.
Non, ça coûte rien. Alors, me demandez pas le prix exact parce que honnêtement, je l'ai oublié, ça fait 4 ans, 5 ans. Mais puis ça a dû changer du coup depuis. Mais voilà, non, c'était très très chouette.
On vous retrouve tout à l'heure pour une autre folie.
Avec grand plaisir. Nous partirons cette fois-ci en Écosse. Mais alors, je vous propose qu'on fasse le trajet en avion plutôt qu'en trabant, parce que sinon, l'Écosse, inutile de vous dire que le test sera fini, on n'ira pas.
Hein. Ça m'évoque deux réflexions. D'abord, en écoutant Sophie, j'ai l'impression d'être dans Goodbye Lénine.
Oui, c'est ça. C'est
très beau film, d'ailleurs.
C'est exactement
très
ça.
Beau
et
film.
Puis alors, la combinaison Trabant-Pirojki, généralement.
Oui, la visite en Trabant à Cracovie, c'est ni plus ni moins que ce qu'on a inventé, nous, à Paris, avec la visite en deux chevaux.
Mais oui, c'est un absolument.
Peu ça. C'est un peu ça.
C'est vrai.
On parle de l'indice ou pas?
Vous en voulez un deuxième?
Oh, je serais ravi d'envoyer un deuxième indice. Pour nos
c'est
auditeurs, 32-10, des triplettes de boules de pétanque au but et une montre RTL à gagner. Nous cherchons un lieu.
Alors, nous cherchons un lieu. Nous avons entendu le son de la gare tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose.
Indice, vous avez dit gare.
Oui, absolument. Bah oui, c'était une annonce en gare.
Hein, annonce en gare, la mienne est plus grosse que la vôtre.
Voilà, allez, deuxième indice.
Pour le Calypso.
Ah. France Gall, Calypso.
Ouais. Là, ça commence à...
France Gall, Calypso, ouais. La gare...
On se doute qu'on parle pas d'un chenil de chien.
Oh, ça doit être un peu plus clair déjà pour vous. 32-10 pour vos appels. Vous êtes nombreux, hein, en ce début de semaine, à tenter de gagner ces boules de pétanque et la montre qui est en jeu. On se reparle dans quelques minutes. A tout de suite sur RTL.
RTL autour du monde, le tourisme d'office.
Deuxième jingle, les amis, c'est l'heure du tourisme...
D'office.
Ils sont là au cœur de vos villes, de vos villages. Ils vous ouvrent leurs portes parce que c'est vrai.
Je croyais que vous alliez dire leurs bras.
Non, mais c'est vrai qu'à l'heure d'internet, ben oui, il y a des petits bras dans les et des bras musclés parfois aussi qui vous donnent des coups de main dans les offices de tourisme. On est là pour leur rendre hommage parce que on ne le dit pas assez, mais à l'heure d'internet, on a parfois peut-être tendance à oublier qu'il y a des gens derrière les comptoirs d'offices de tourisme qui sont là pour vous donner des coups de main dans les villes. Alors on finit toujours au bout d'un moment par pousser leurs portes. On leur rend hommage cet été sur RTL en tentant en plus. Délire, le meilleur office de tourisme de l'été. Il y a un diplôme RTL à la clé. La compétition bat son plein et en ce début de semaine, on file en Haute-Savoie.
Une plaque.
Une
plaque.
Bien sûr, pourquoi pas. Gravée par les soins de Jean-Sébastien.
Oui.
Nous filons en Haute-Savoie où nous attend Laurent Vriez. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'office de tourisme de...
Sixfer à cheval.
Alors, Sixfer à cheval. La Haute-Savoie. Laurent, si vous ne deviez nous donner qu'une seule et unique bonne raison de venir chez vous. Imaginez, on arrive du Portugal, on n'est jamais venu en France, on met les pieds pour la première fois en Haute-Savoie. Qu'est-ce qu'il faut faire chez vous? Qu'est-ce qu'il faut voir?
Eh bien, je vous donne rendez-vous au cœur d'un paysage grandiose et magnifique. Je vous propose de venir découvrir notre majestueux cirque du fer à cheval et ses magnifiques cascades.
Alors, expliquez-nous ce que c'est exactement. C'est un site qui est classé, qui se situe dans la vallée du Gifre, c'est ça?
Exactement. On est situé dans la vallée du Gifre, au cœur des montagnes du Gifre, en Haute-Savoie. Et ce cirque du fer à cheval, en fait, marque le début de cette vallée du Gifre. C'est là que tout prend sa source, notamment le torrent dont on vient d'évoquer le nom, le Gifre. Et quand je dis prendre sa source, c'est pas un petit mot, c'est un grand mot, puisque ici prennent naissance des cascades incroyables.
Hauteur de 500 à 700 mètres, quand même.
Tout à fait, elle dévale les parois du cirque du fer à cheval, bondissant par-dessus les rochers. C'est un spectacle magnifique pour nos visiteurs. Absolument, c'est vraiment un conseil de venir nous découvrir.
Alors, c'est une espèce d'amphithéâtre, hein, pour qu'on se fasse une idée précise, même si les photos seront sans doute sur le site. Mais c'est une véritable cathédrale calcaire, d'où l'eau jaillit de la montagne et donne naissance à pas mal de cascades dont vous parliez. C'est ça le truc.
Exactement. Le cirque du fer à cheval fait référence à sa forme, un arc de cercle. Hein, c'est une formation géologique d'origine glaciaire et due à l'érosion de l'eau sur les parois rocheuses. Et c'est un, effectivement un demi-cercle en forme de fer à cheval, d'où son nom qui fait rêver les voyageurs.
Ouais, c'est quand même, il faut le dire, le plus grand cirque montagneux d'origine glaciaire dans les Alpes.
Exactement, c'est un développement d'à peu près 6 km de long, qui culmine aux alentours des 3000 mètres d'altitude, avec même un point culminant, le mont Buet, à 3099 mètres, véritable petit frère du Mont Blanc voisin de notre vallée.
Laurent Vriez, vous savez que cette émission s'intitule RTL Autour du Monde. Il y a une particularité dans ce site unique, c'est qu'on peut aller au bout du monde chez vous. Expliquez-nous.
Exactement, ça c'est une autre très belle invitation. Après avoir découvert le cercle du fer à cheval et ses cascades, eh bien, on continue la balade, très facile d'ailleurs, pour se rendre, tenez-vous bien, au bout du monde. Et là, c'est encore une fois un parcours rythmé par de très jolies cascades, des vues impressionnantes et grandioses sur les parois rocheuses de cette profonde vallée. Et en arrivant au bout du monde, eh bien, on peut évoquer des histoires mystérieuses.
Mmh. Alors des histoires, il y en a, oui Jean-Sébastien.
Non, c'est vrai qu'il y a toute cette nature qui est absolument exceptionnelle dans cette vallée. Mais il faut aussi évoquer, moi j'ai eu la chance de venir chez vous avec un guide d'exception qui est Laurent Guillaume, qui fait une très très belle émission sur France 3 Rhône-Alpes qui s'appelle Chronique d'en haut, qui est entièrement consacrée à la montagne. Et il m'a fait découvrir Sixte Fer à Cheval, qui est un des plus beaux villages de France. Il faut pas l'oublier. C'est un endroit qui est réparti comme ça, je crois qu'il y a 24 hameaux, hein, c'est ça, et c'est vraiment extrêmement original, absolument magnifique. Il y a une architecture particulière, il y a des chapelles comme ça posées dans chaque hameau, il y a des oratoires qui sont un peu partout, et ça fait partie de ces très très beaux villages typiques des Alpes qui donnent envie d'aller à la montagne l'été.
Et qui ont attiré pas mal d'aventuriers, on se l'imagine bien.
Exactement. Je suis entièrement d'accord avec vous hein, sur la présentation de notre village et de ses multiples richesses naturelles, patrimoniales. Il y a beaucoup de choses à découvrir.
Ça se visite tout l'été, donc ?
Ça se visite tout l'été, je dirais même plus, ça se visite toute l'année.
Ah les oui, carrément, même l'hiver.
Ici, toute l'année, oui, tous les jours de l'année. Et à chaque fois, c'est un spectacle différent, mais toujours incroyable.
Voilà, le cirque du fer à cheval en photo, c'est sur la page de l'émission, sur RTL.fr et sur Twitter, via le compte de RTL France. Alors, vous savez, Laurent, que vous êtes en piste, hein, en course pour décrocher peut-être, on vous le souhaite, le diplôme RTL de meilleur office de tourisme de l'été. Est-ce que vous êtes prêt pour la question qui vous fait tout de suite entrer en compétition ?
Eh bien, écoutez, je suis prêt.
Allons-y. La Haute-Savoie est notre invité aujourd'hui, Sixte Fer à Cheval, Laurent Vriez, et le directeur de cet office de tourisme. Laurent, il est possible de faire une promenade en chien de traîneau à Sixte. Mais qui fut le champion du monde de chien de traîneau en 2015 ? Oh, la question. Mais la question. Et là, il se dit, Laurent, pourquoi j'y suis allé ? Pourquoi je leur ai donné mon numéro d'appel ? Donc je rappelle la question, il est possible de faire une promenade en chien de traîneau, c'est bien qu'on le sache, à Sixte. Qui fut le champion du monde de chien de traîneau en 2015 ?
Mais c'est horrible, mais c'est un piège épouvantable.
Ah non mais, que voulez-vous ?
Je vous assure, Laurent, qu'on va attraper le concepteur
de
cette question.
Il est possible de jouer au boule à Paris. Qui fut le champion du monde 1924
qui
de
est,
pétanque ?
Qui est au but ? Ah non mais je vais vous l'offrir celle-là. Parce que
on saura vous venger.
C'est impossible, Il s'appelle Damien Langlois. C'est un Normand, il a été champion du monde de chien de traîneau. C'est, pour l'anecdote, c'est un Normand qui est quand même champion du monde de chien de traîneau. L'histoire est belle.
L'histoire est belle, exactement. Ouais. Il a dû venir s'entraîner par chez nous parce qu'il a dû trouver ici un terrain de jeu extraordinaire.
Non mais vous comprenez
Sûrement, vu le niveau, c'est compliqué.
Vu votre niveau, Laurent, hein, j'ai compris que vous maîtrisiez le site, etc. J'allais quand même pas vous demander quel chanteur français avait chanté la Dame de Haute-Savoie.
Non, non plus.
Voilà, puisque vous m'auriez évidemment répondu, Daniel Guichard.
Exactement.
Laurent Vriez, je rappelle, hein, Sixte Fer à Cheval, la Haute-Savoie, quelle belle région qu'est la vôtre. Directeur d'un office de tourisme qu'on vous conseille, poussez leur porte. Laurent vous attend avec ses collègues pour vous faire passer un bel été et pourquoi pas cet hiver aussi. On vous embrasse, on vous souhaite de belles vacances.
Merci à tous, merci à vous, à très bientôt. Bonnes vacances.
Je rappelle que si Laurent Vriez vous a convaincu, vous envoyez le code Tourisme, c'est le mot. Tourisme au 74 900, vous allez pouvoir gagner des guides du routard de votre choix ainsi qu'une montre RTL. 74 900, le mot tourisme par SMS. À tout de suite.
RTL.
Autour du monde.
Autour du monde.
Alors vous le savez, depuis le début de l'été, le magazine de la curiosité Ça m'intéresse est notre partenaire. Chaque semaine, il nous déniche des lieux insolites, que ce soit en France ou en dehors de nos frontières d'ailleurs. Aujourd'hui, on va faire dans le culte, mais en France. Haute-Claire de Parcevaux, bonjour.
Oui, bonjour.
On démarre avec une église. On est dans la Creuse, une église très particulière de par ses fresques.
Alors, c'est une église très banale d'extérieur. Ouais. Vous voyez, une petite église. Bon, alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous imaginez comme déco quand vous voyez une église
lambda? Une petite église dans la Creuse, généralement, on ne va pas non plus tout droit vers les plus immenses surprises.
Voilà. Alors, c'est ça qui est vraiment étonnant à Sous-Parça.
C'est quand vous entrez à l'intérieur.
Vous entrez, et alors là, un choc incroyable. Vous avez des fresques partout. Mais pas des fresques médiévales, etc. C'est archi-contemporain, puisque c'est un artiste creusois qui a réalisé ça à la fin des années 80. Il l'a fait bénévolement, d'ailleurs. Et alors, c'est un choc absolu. Vous avez tout le plafond, par exemple, est bleu, totalement bleu, avec une frise dans les oranges vifs, avec du noir, des entrelacs. C'est à moitié abstrait, à moitié représentatif. Vous avez dans le chœur un Christ avec des mains gigantesques sur un mode un peu de manga japonais, on pourrait dire. Vous avez des fonds noirs avec des personnages rouges. Alors, c'est à moitié psychédélique.
Mais on sait pourquoi c'est arrivé là-bas? Pourquoi là-bas et pas ailleurs?
Alors, en fait, on sait parce que l'artiste
est là,
et donc il en a fait vraiment un lieu d'expression de son art, et il est très doué, et c'est vraiment étonnant.
On rappelle le nom du village?
Alors, c'est l'église de Saint-Pourça, Sous-Parça.
Sous-Parça.
C'est pas facile à dire, faut dire.
Ça me rappelle, il y a une église comme ça que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, qui est juste à côté d'Albi, qui est à Castelnau-de-Lévis, qui est une petite église qui s'appelle l'église du Carla, qui a été enlevée au culte depuis des années parce qu'elle était en ruine. C'est une église romane et qui a été reprise aussi par un artiste de Castelnau-de-Lévis et qui en a fait quelque chose d'incroyable, de couleur, de beauté. C'est exactement dans le même esprit. C'est formidable. Et il y a toute une association qui s'est mobilisée autour de cette petite église du Carla à Castelnau-de-Lévis. Il y a notamment le président de l'association qui est un type incroyable qui s'appelle Claude Ray, à qui j'ai envie de rendre hommage cet après-midi parce que ce garçon est policier dans la vie et il s'occupe d'une association pour enfants malades. Il fait vivre cette église. Enfin, c'est un mec remarquable.
Après ce vibrant hommage, voilà. Haute-Claire, nous partons pour une petite chapelle.
Partagez pas,
Si, je suis très ému. Je vous l'avoue, oui. Je suis très ému. Mais d'autant plus que nous allons dans les Hautes-Alpes. Et dans les Hautes-Alpes, je l'ai dit, aujourd'hui c'est culte, c'est une petite chapelle.
C'est surtout pas croyable en fait, c'est des lieux de culte pas croyables. Si je vous dis Pépette, vous pensez à quoi?
Au surnom de mon chien.
Disons que dans une église.
Alors Pépette en fait ça veut dire poupée.
Pépette, ça veut dire poupée.
Poupée en patois. Et pourquoi? Parce que cette petite chapelle est décorée de petites poupées en pierre étonnantes. Vous avez un peu l'impression de vous trouver devant des statues. Alors, on dit des masques aztèques, enfin c'est, ou bien des masques celtes, je ne sais pas. Vous avez des visages tout ronds, entièrement ronds, avec des yeux tout ronds aussi, un nez qui sort en relief, et puis un petit manteau, et c'est à peu près tout. Alors, il y a des petits détails, un petit chapeau, des petits boutons, choses comme ça. Et ces petites poupées sont mises en fait sur la façade, dans des niches. Il y a une quinzaine de niches comme ça. Et en fait, la légende raconte que c'est un maçon qui était amoureux d'une bergère, qui a commencé à tailler des pierres pour essayer de se faire remarquer par sa belle. Alors, il taillait ses pierres en forme de poupée, en forme... Et puis, finalement, il s'est dit, mais où est-ce que je vais mettre toutes ces petites statues-là? Et donc, il a fait construire une petite chapelle. Et l'histoire ne dit pas si la bergère a été séduite, mais en tout cas, la chapelle est là et c'est extraordinairement joli.
On rappelle où ça se trouve?
Alors, ça se trouve dans les Hautes-Alpes, un petit hameau qui s'appelle Laubéry, et c'est la commune de Bénévent et Charbillac.
Il faut les trouver quand même, ces villages, parce que ça fait partie d'un dossier du magazine. Il y a 40 lieux insolites partout en France.
Exactement, dont un certain nombre de lieux de culte étonnants. Et si je...
Mais ils sont recensés ou vous avez vraiment, vous et vos collègues, parcouru la France pour les trouver?
C'est vraiment une enquête et on fait ça tous les ans et on essaie de trouver des lieux dont on n'a pas entendu parler.
Mmh. On termine avec une pagode?
Alors on trouve une pagode. Si je vous dis pagode, vous pensez à l'Asie. Et bien moi je vous emmène...
Dans l'Allier?
Absolument, je vous emmène dans l'Allier. Et alors pourquoi l'Allier à votre avis?
Ça c'est une bonne, parce qu'il y a eu des mines dans le coin.
Ouais,
parce que je sais que vous allez nous parler de ce qu'on appelle dans le nord des corons.
Exactement, parce qu'on est à Noyant-d'Allier, et à Noyant-d'Allier en 1950 la mine de charbon a été fermée. Et le maire a eu l'idée, on était donc dans les années 50, c'était la fin de l'Indochine, il y avait donc des rapatriés, des familles franco-vietnamiennes qui ont été accueillies là. Et plus de 1500 personnes sont arrivées et sont mis à repeupler ce village qui était un petit peu déserté avec la fermeture de la mine. Et dans les années 80, je crois que c'est en 86 exactement, ils ont inauguré une pagode. Et alors là, vous avez vraiment l'impression d'être en Asie. Vous entrez, vous avez un immense Bouddha doré, vous avez un autre Bouddha couché blanc, très très joli. Et puis vous avez un jardin extraordinaire avec des lotus, avec des pivoines, enfin vraiment un jardin asiatique. Et si vous avez envie de vous restaurer, il n'y a pas très loin, un petit restaurant vietnamien également. Donc voilà.
Spécialité si vous... de Bouddha, on l'a compris. Hein.
qui en attendant... qui fait partie des meilleurs restaurants vietnamiens de France.
Ah bah voilà.
Parce que forcément, vous ne pouvez pas faire plus typique que là-bas.
Bon, et alors, dans l'Allier, donc, cette pagode est à voir dans ces lieux qui font partie de ce dossier intitulé, je le rappelle, 40 lieux insolites en France. Les photos sont dans le magazine. C'est assez surprenant, hein. C'est vrai que c'est un vrai exercice, je voudrais vous rendre hommage parce que c'est un exercice à la radio, c'est pas votre métier non plus, de nous expliquer, et c'est souvent visuel, l'intérêt de tous ces
c'est
lieux.
C'est la difficulté, absolument.
Merci, c'est un bel exercice. Conseille. C'est un bel exercice. Merci beaucoup. Très bel été à vous aussi, Haute-Claire de Parsevaux. Merci de votre passage dans cette émission.
Vous aussi, merci.
Dans un instant, Sophie Massieu. Sophie, après la Trabant et Cracovie, du mystère une fois encore.
Mais oui, on va aller chasser des esprits.
Chasseuse d'esprit.
Oui. Dites rien à personne, c'est dangereux.
A tout de suite sur RTL.
RTL.
Autour du monde.
Autour du monde.
Les traditions de Sophie Massieu dans quelques instants sur RTL, dans RTL Autour du monde. Mais avant cela, Jean-Sébastien, je voudrais qu'on donne un nouvel indice, le troisième et dernier indice.
Absolument.
Car nous recherchons un lieu.
Alors nous recherchons un lieu, on a entendu tout à l'heure France Gall avec Calypso, on a entendu une annonce en gare célébrissime d'un canular téléphonique. Allez,
de Jean-Yves Lafesse.
De Jean-Yves Lafesse. Troisième indice, on vous retrouve, Robert, vous qui êtes là-bas, dans ce lieu, et c'est vous qui allez nous donner ce troisième indice.
Alors, le troisième indice, ce lieu a été créé, attention, par un prince, mais un prince qui a réalisé pas moins de 28 explorations scientifiques.
D'accord.
D'accord.
Un prince qui a régné.
Un prince qui a régné, effectivement. C'est assez rare, donc ça vous aide.
Oui, voilà, voilà. C'est suffisamment rare pour qu'on le précise. Très bien, je pense qu'on a fait le tour de la question.
Là, je crois.
Oh, bah, c'est de l'indice de championnat du monde, ça. Hein. Bon. Robert, vous bougez pas. On se retrouve dans quelques instants pour, évidemment, révéler à tous ceux qui nous écoutent, à vous qui êtes sur RTL cet après-midi, de quoi il s'agit. Et surtout, le lieu dans lequel vous trouvez. C'est un lieu forcément extrêmement connu en France. 32-10 pour vos derniers abonnés. Appel afin de tenter de gagner les triplettes de boules de pétanque de la marque Obut et la montre RTL.
RTL autour du monde.
Sophie, sa coutume.
Sophie, qui nous promettait du mystère il y a quelques instants, mais du mystère écossais.
Eh oui, n'ayons peur de rien. Je vous emmène dans un drôle d'endroit. Il fait froid, c'est très humide, c'est tentant, hein.
Oui.
Il est près de minuit, Jean-Sébastien. C'est
moi,
grand.
Froid, humide, déjà j'aime bien.
Voilà. Et puis la nuit, vous aimez bien aussi.
Aussi.
Et puis c'est grand, il y aura de la place pour que vous puissiez bouger, courir, gambader. C'est peu habité, ou alors très habité, c'est selon. Mais alors, si on dit que c'est habité, c'est par des esprits, des fantômes, des revenants. Pas des morts, des revenants. Nous sommes donc en Écosse, nous sommes perdus au milieu de la lande, et précisément pour moi, ce jour-là, c'était au Cathal Mangus.
Le Cathal Mangus.
Yes, sir.
Alors, pour le coup, on peut en parler deux secondes. Je voudrais que vous nous disiez sérieusement, on peut y croire un seul instant quand on entre dans un château qu'il est hanté.
Alors écoute,
ça marche.
Moi, je suis très sceptique comme fille, je suis très rationnelle, ouais. Je suis assez cartésienne. Donc j'y croyais moyennement. Je suis ressortie, je vais d'abord vous raconter comment ça s'est passé avant de vous dire dans quel état je suis ressortie. Mmh. Mais en tout cas, j'y croyais moyennement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens dont c'est vraiment le métier de traquer ces fantômes. Il y a des propriétaires de châteaux qui appellent des spécialistes de la chasse aux fantômes.
Comment ? Alors, les Ghostbusters, quoi. Enfin, c'est
ça.
Ils chassent comment,
c'est
les fantômes ?
C'est exactement ça. Ben, en fait, d'abord, il y a une médium. Enfin, moi, quand j'y suis allée, il y a un médium. C'était une femme qui avait une soixantaine d'années, qui les chassait comme ça. Donc, elle était hyper concentrée, vraiment tendue dans l'écoute, etc. Son but à elle, c'était de rechercher les fantômes, de dire dans cette pièce, il y en a un, et voilà où il est. Voilà. Et après, elle avait un acolyte qui qui lui devait enregistrer ce que faisait le fantôme. Voilà, nous on n'entendait rien, mais il fallait l'enregistrer parce que dans l'enregistreur, qui était un enregistreur spécifique, on allait entendre quelque chose.
Donc on entend des trucs, on est censé entendre des voix au bout d'un moment ?
Alors, en tout cas, l'enregistreur, lui, doit en entendre. C'est un appareil spécial qui arrive à enregistrer les phénomènes de voix électronique, ils appellent ça. En gros, c'est la voix des esprits. Si vous ne l'entendez pas dans l'enregistreur, moi en tout cas je ne l'entendais pas. Pourtant je ne suis pas sourde, hein, je vous assure.
Donc vous n'avez rien entendu.
Alors en fait, après quand on a réécouté l'enregistrement, bon d'abord l'enregistrement d'après eux, il fallait l'analyser parce qu'il n'était pas complètement clair. Ah bah oui, je suis assez d'accord. Et donc on a décrypté cet enregistrement.
Vous entendiez quoi ?
Moi, personnellement, j'avais l'impression que c'était juste ma main qui bougeait sur le micro puisque c'est moi qui tenais l'enregistreur ce jour-là. J'en entendais bien effectivement. Mais pour moi, c'était juste le fait de tenir l'engin qui avait fait un bruit. Voilà. Pour eux, passé au décryptage, ils ont entendu quelque chose comme « Get out ».
Qui vous demandait, l'esprit vous demandait de sortir.
C'est ça. Ils voulaient nous sortir de là.
Et comment vous expliquez que les Écossais croient tellement à ces histoires de fantômes ? Est-ce que c'est pas, je vais le dire franchement, un petit attrape-touriste
Bah écoutez, ils le font vraiment même sans touriste. C'est-à-dire que là, ils l'ont pas fait pour moi. Ils l'ont fait pour eux. Le propriétaire du château avait appelé cette équipe de chasseurs de fantômes. Ce que j'ai pas très bien compris, c'est pourquoi ils le faisaient. Et pourquoi ils y croient ? C'est un peu une terre de légende. C'est quand même le même pays où on croit au monstre du Loch Ness, quoi. Donc non, ils le font vraiment. Il y a des gens qui sont payés pour ça.
Il y a des gens très sérieux qui se penchent là-dessus. Il y a des scientifiques qui viennent d'universités renommées qui se penchent sur la chasse de fantômes.
Exactement. À Édimbourg, il y a un groupe qui travaille sur la parapsychologie. Il y a des scientifiques qui s'y intéressent.
Bon, on a beau être sceptique, ça marche quand même. Est-ce que vous avez flippé une seconde ou pas ?
Non, moi j'étais.
Sophie, elle a surtout flippé quand elle a entendu ça.
C'est bien moi. Fantomas, tu ne connaîtras jamais mon vrai visage.
Parce que forcément, il a cherché Lord McCrashley.
C'est ça.
Il est où Lord McCrashley ?
Il est où ? Non, moi, j'ai pas eu peur. J'étais spectatrice, j'étais intriguée, j'étais sceptique. J'avais pas caché mon scepticisme à mes hôtes, hein, voilà. Et d'ailleurs, ils m'ont accueillie pour autant de manière très très ouverte. Donc voilà, ils étaient plus ouverts que moi, je ne l'ai été à leur pratique. Finalement.
Si on doit être tout à fait honnête, vous recommandez la chasse aux fantômes à ceux qui partent pour l'Écosse ?
Alors en tout cas, c'est à la mode. Il y a la possibilité, il y a des agences qui proposent ce genre de visite. Je pense que pour vraiment s'amuser avec ça, il faut être un peu moins sceptique et irrationnel que je ne l'ai été. Mais en tout cas, c'est quand même une expérience à vivre. Et puis de voir ces gens qui y croient vraiment, je vous assure, c'était unique. Enfin, moi, je ne suis pas prête d'oublier cette soirée.
Il y a un truc qui me parle un peu plus la semaine prochaine. Je pense que vous allez nous emmener en Toscane.
Bah, si. Et c'est même pas pour vous faire plaisir. Moi, j'adore ce pays, j'adore cette région. Et la semaine prochaine, on va parler d'un truc de fou. Le palio, ça vous dit quelque chose ?
Ah, bah, la course de chevaux.
Voilà.
À Sienne.
On parle de ça la semaine prochaine.
Magnifique.
Entre autres.
C'est Sophie Massieu qui s'accoutume tous les lundis de tradition hors du commun dans RTL Autour du Monde. On vous embrasse, Sophie. Belle semaine.
RTL
Autour du Monde.
Autour du Monde.
La promenade est quotidienne, c'est tout l'été, entre 15 et 16 heures, juste avant les grosses têtes que vous allez retrouver dans quelques instants pour le meilleur des grosses têtes de l'été en compagnie de Laurent Ruquier. C'est RTL Autour du Monde qui se termine aujourd'hui avec la révélation de notre jeu fil rouge.
Absolument.
Jean-Seb, on cherchait depuis 15 heures un lieu mystère en France.
Exactement.
Et Robert est avec nous.
Et Robert Calcagno est avec nous. Où sommes-nous avec vous, Robert ?
Ben Jean-Sébastien, nous sommes au musée océanographique de Monaco.
Voilà, et vous en êtes le directeur.
Et juste avant que vous nous expliquiez, ça vaut peut-être le coup qu'on explique pourquoi les trois indices, parce que c'était pas piqué des hannetons aujourd'hui.
la gare de Monaco.
Message personnel, la mienne est plus grosse que
c'est
la vôtre.
C'est le fameux sketch de La Fesse.
Un des sketchs les plus incroyables qui a réussi Jean-Yves La Fesse, puisque cette annonce en gare a été faite dans la gare de Monaco. Calypso de France Gall.
Parce que c'était le navire de Cousteau.
C'était le navire de Cousteau et le commandant a été un des patrons, un des fondateurs et patrons de ce qui est devenu ce musée océanographique de Monaco. Et puis, vous allez nous expliquer pourquoi ce prince qui a régné, Robert.
Écoutez, c'est le musée océanographique et l'Institut océanographique également à Paris ont été créés par le prince Albert Ier, donc à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc le prince Albert Ier, c'était l'arrière-arrière-grand-père du prince Albert II qui dirige aujourd'hui Monaco et qui est également le président d'honneur du musée océanographique. Et ce prince Albert Ier, tout comme le prince Albert II aujourd'hui, sont passionnés et engagé dans la protection de l'environnement et tout particulièrement des océans.
Pourquoi il a voulu, le prince Albert Ier, ce musée, ce centre de recherche posé sur le rocher de Monaco?
Alors,
bon, évidemment, il y avait la Méditerranée en bas, mais...
Bien sûr, mais c'était quelqu'un qui était très curieux, très tourné vers le futur, un prince très moderne. Il a fait lui-même 28 campagnes d'exploration océanographique allant en Méditerranée, dans l'Atlantique, en Arctique, et... Pour montrer finalement les résultats de ses recherches, les campagnes, les poissons, les outils qu'il utilisait, il a créé ce formidable bâtiment qui est perché au-dessus d'une falaise et qui surplombe la mer Méditerranée de 80 mètres.
Alors, c'est un endroit totalement incroyable. Vous avez un savoir-faire qui aujourd'hui est mondialement reconnu à travers tous les musées océanographiques. Vous l'avez dit, il y a plus de 6000 spécimens à découvrir chez vous. Je sais qu'à chaque fois aujourd'hui, chaque année, il faut qu'il y ait des nouveautés. Il y a une espèce de battle entre chaque zoo, chaque aquarium. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui de totalement incroyable à découvrir quand on va chez vous à Monaco ?
Alors, on en a beaucoup, mais vous aurez la possibilité, si vous venez, je serai ravi d'accueillir et d'inviter pour une visite privée votre gagnant, la possibilité de plonger avec le prince Albert II pour explorer les récifs de Tubata en pleine mer de Sulu aux Philippines. Alors, je dois vous expliquer. Oui. Nous utilisons la toute dernière technologie, ces casques de réalité virtuelle.
Génial.
Et au mois d'avril, donc, nous avons été faire, sous la direction et le leadership du prince Albert II, une mission d'exploration sur ces récifs de Tubata. Et nous avons filmé cette mission avec une caméra 360 degrés. Donc, après quelques semaines de traitement, vous pourrez venir au musée océanographique, mettre un masque, j'allais presque dire un masque de plongée sur votre tête, et vous vous retrouverez aux côtés du prince Albert II
pour une plongée virtuelle.
Les tortues, les requins, les raies de ce magnifique récif.
Robert, vous confirmez que vous invitez donc notre gagnant, c'est-à-dire Francis, il est à Châtellerault dans la Vienne, il est votre invité avec la personne de son choix au musée océanographique.
Avec la personne et toute sa famille et ses amis également.
C'est ça, les monégasques. C'est royal.
Les bienvenus et je les accueille personnellement.
C'est princier.
Et nous devons.
Bravo à Francis qui gagne la triplette de boules de pétanque, la montre RTL et les entrées pour le musée océanographique de Monaco où se trouvait notre ami Robert. Merci beaucoup.
Merci Robert Calcagno, belle saison à vous et bravo pour tout ce que vous faites parce que le musée océanographique de Monaco est vraiment un endroit qui est extraordinairement beau.